France Musique. Musicopolis. En do majeur. En quelque sorte, les racines de INSEE ont leur origine à Paris. C'est là que j'ai travaillé avec Chet Baker en 1963 sur un projet pour le théâtre Ray Camier. En enregistrant Chet Baker et en faisant des boucles avec ce qu'il jouait, lui et ses musiciens, j'ai commencé à voir la possibilité d'utiliser des boucles dans la musique live. C'était comme un prélude à l'écriture de INSEE. Quand j'ai écrit INSEE, j'ai réalisé que c'était quelque chose de très important. Mais je n'avais pas l'idée que la pièce deviendrait aussi célèbre, vous savez, qu'elle aurait une vie par elle-même, maintenant qu'elle est jouée dans le monde entier, quasiment chaque jour. Je ne crois pas qu'il existe une pièce écrite auparavant qui donne aux musiciens la même liberté de se retrouver ensemble comme une communauté pour jouer un morceau de musique qui, chaque fois, résulte en un effet différent. Lorsque Terry Riley enregistre Chet Baker en 1963, il est installé à Paris depuis 2 ans. Pour gagner sa vie, il joue du piano dans des clubs pour officiers américains. Après avoir étudié la musique dans de très sérieuses institutions dans sa Californie natale, le conservatoire et l'université de San Francisco, puis l'université de Berkeley, il a été influencé par Stockhausen, avant de rencontrer Lamonte Young, qui compose une musique très lente avec de longues tenues de notes. Riley vient en Europe en 62. Il profite de son séjour à Paris pour suivre les cours d'été à Darmstadt. Et il travaille à l'ORTF, où il expérimente sur les bandes magnétiques qu'il a enregistrées avec Chet Baker. Il se passionne pour la répétition de courtes cellules mélodiques. Suite à l'assassinat de John Kennedy en 1963, les clubs pour officiers américains à Paris sont fermés. Et Terry Riley est obligé de rentrer aux États-Unis, où il espère trouver du travail comme pianiste de ragtime. Il arrive à un moment où de nombreuses initiatives fleurissent et où beaucoup de possibilités semblent s'ouvrir aux jeunes compositeurs, en dehors des circuits institutionnels. Riley est ami avec les membres fondateurs du Centre de Tape Music, de musique sur bande, de San Francisco, dont Morton Subotnick et Pauline Oliveros. Subotnick lui dit « Pourquoi ne donnerions-nous pas un concert avec ta musique? Tu écrirais une pièce et nous la jouerions tous ensemble. » Riley prend cette proposition très au sérieux. Thank you. Rentré à San Francisco au printemps 1964, Terry Riley retrouve ses amis musiciens. L'un d'eux l'entraîne au concert, lui disant « Il faut que tu rencontres ce type, Steve Reich ». Riley y va. « Je n'ai pas été impressionné », raconte-t-il. « Je suis parti à l'entracte et le lendemain, je suis dans mon studio et on frappe fort à la porte. Et Steve me dit « Pourquoi avez-vous quitté mon concert ?» Alors je l'ai invité à rentrer, il m'a fait entendre quelques-unes de ses pièces pour bande et nous sommes devenus bons amis. Je lui ai montré la partition de In C et ensuite, nous avons commencé à parler de donner un concert. À l'époque où Terry Riley est revenu à San Francisco après ses recherches sur les boucles d'enregistrement de Chet Baker, il est en pleine élaboration d'une pièce pour instrument physique, si l'on peut dire, mais qui utilise des processus de composition inspirés par le travail sur bande. Il voudrait terminer cette pièce pour la faire jouer au Festival de Jazz de Monterey, mais ça ne fonctionne pas. Un soir de mars 1964, en rentrant en bus du saloon où il joue du ragtime, Terry Riley a une sorte de flash. Soudain, il entend un morceau qui s'impose à lui. « C'était comme la musique qu'on entend en rêve », raconte-t-il. « Lorsque je l'ai entendu, je savais exactement comment l'écrire. Je crois que quasiment le lendemain, je l'avais couché sur le papier. Peut-être d'une seule traite, en une fois, je ne me souviens plus très bien. » Je pense que je suis une antenne. Rien n'a son origine à l'intérieur de moi. Rien ne commence en moi. Ça vient en moi de l'extérieur. Je partage cette idée avec beaucoup de musiciens. Il y a ce sentiment que peut-être, avant de commencer à jouer, vous ne savez rien du tout. Et puis, vous vous asseyez et soudain, ça vous coule dessus, alors... La pièce que Riley a mise au propre en mars 1964 s'appelle « In C », c'est-à-dire « en do majeur », puisqu'en effet, c'est l'une de ses caractéristiques d'être en do majeur. Une fois que sa partition est écrite, Terry Riley la montre à Steve Reich, donc, et ils réunissent quelques-uns de leurs amis musiciens pour la jouer. Le morceau consiste en 53 petits modules musicaux, des petits motifs de quelques notes. Les plus courts ne comportent qu'une seule note. Certains plus. Trois notes, par exemple, qui forment une ébauche de mélodie. Ou alors, un rythme plus marqué. D'autres sont plus longs. Certains sont lents. D'autres rapides. Les musiciens qui jouent la pièce doivent commencer l'un après l'autre, au moment qui leur convient, et ils répètent chaque module, l'un après l'autre, pendant un certain temps. Lorsque le musicien qui a commencé en premier passe au module suivant, on entend donc deux modules simultanément. Puis, avant que tout le monde ait attaqué le deuxième, le musicien qui a commencé est déjà passé au troisième. On peut donc entendre, suivant les moments, un ou deux ou trois ou même quatre ou cinq petits motifs en même temps, joués avec des décalages. Ce qui produit une texture sonore beaucoup plus riche qu'on aurait pu croire à la lecture des 53 petits modules. Et qui évolue lentement, quasiment sans qu'on s'en aperçoive, à moins de prêter vraiment attention. Les amis musiciens de Terry Riley se penchent sur la partition de Insi. Ils répètent la pièce plusieurs fois. L'un d'eux se souvient qu'ils allaient dans de grandes maisons victoriennes du centre de San Francisco, chez des gens et dans des quartiers qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de fréquenter. Les musiciens qui participent aux répétitions ne sont jamais les mêmes, en dehors d'un petit noyau qui revient régulièrement. Il y a toutes sortes d'instruments, puisqu'aucune précision sur ce point n'est écrite sur la partition. Les participants peuvent chanter ou jouer de n'importe quel instrument. Leur nombre n'est pas non plus spécifié. Dans le petit noyau régulier, Terry Riley est au piano, Steve Reich joue un piano électrique, Pauline Oliveros de l'accordéon, Morton Subotnick de la clarinette, Ramon Sender un orgue chamberlin et John Gibson du saxophone soprano. Parmi leurs amis, on trouve encore un trompettiste, un flûtiste à bec, plusieurs pianistes. Le concert de la première de Insi, de Terry Riley, est annoncé pour le 4 novembre 1964. Les répétitions se font dans une ambiance bon enfant et néanmoins professionnelle. Riley pensait que la pièce serait facile à jouer, mais en fait, non. Le problème réside surtout dans le rythme. Il n'est pas facile de maintenir un tempo commun dès lors que plusieurs modules sont joués ensemble. C'est alors que Steve Reich, qui en tant que percussionniste connaît bien le problème du tempo, propose une solution. Je jouais dans la pièce et nous avions beaucoup de mal en répétition pour être ensemble. J'ai suggéré à Terry, vous savez, en bon percussionniste, pourquoi ne pas avoir quelqu'un qui joue régulièrement quelque chose comme un do ? Ça nous maintiendrait tous ensemble. Et c'est comme ça que la pulsation a fait son apparition dans la pièce. Mais honnêtement, si j'ai contribué sur ce détail, j'ai surtout appris énormément grâce à cette pièce. Si on oublie peu à peu la pulsation régulière dans Insi, elle reste là néanmoins d'un bout à l'autre de la pièce, jouée de manière imperturbable. La première de Insi de Terry Riley arrive enfin le 4 novembre 1964. La séance est gratuite, conçue comme un acte d'amour. Elle a lieu dans les locaux du Centre de Tape Music de San Francisco, dans une salle qui contient une centaine de personnes. Ce n'est pas une salle de concert à proprement parler. Il y a une estrade dans le fond qui tient lieu de scène, mais tous les instruments ne tiennent pas dessus, et certains sont donc au niveau de la salle. Les chaises sont empilées à côté de l'entrée, et il est décidé que les spectateurs prendront chacun la leur en arrivant et s'installeront où ils voudront. Pour que l'événement ait encore moins l'air d'un concert traditionnel, Terry Riley joue pendant que les gens s'installent. Insi fera l'objet de la deuxième partie de la soirée. 13 instrumentistes participent, il y a 2 trompettes, une flûte à bec, une clarinette, un saxophone soprano et un ténor, un accordéon, 2 pianos à 4 mains, un piano électrique Wurlitzer et un orgue Chamberlain, qui est un instrument électronique qui se trouve dans un autre studio et dont le son arrive par des haut-parleurs. Il n'existe pas d'enregistrement de cette soirée. Le premier disque a été réalisé par Terry Riley et plusieurs des participants d'origine en 1968. Une version qui serait, selon les témoins, beaucoup plus rapide que celle de la première. La première de In C de Terry Riley est un succès. La note de programme explique simplement In C, une pièce pour n'importe quelle combinaison d'instruments, de chanteurs ou les deux. Il s'agit d'une série de motifs construits en Do majeur. La pièce utilise un type d'improvisation très strict, en ce que l'exécutant doit continuellement choisir combien de temps il va rester sur chaque motif. Le public est chaleureux, les gens ont l'impression d'avoir assisté à quelque chose d'étonnant, de nouveau. Ce soir-là, il y a aussi un artiste qui fait une création de lumière, qui contribue grandement au spectacle. Deux jours plus tard, une deuxième exécution est donnée. Cette fois-ci, le célèbre critique du San Francisco Chronicle est présent et il écrit un article tout à fait élogieux sur le style de Riley pareil à nul autre sur la Terre, affirmant que In C est le chef-d'œuvre de la soirée. On considère généralement In C comme l'œuvre qui lance le courant dit de la musique minimaliste. Un terme que Terry Riley récuse. Je ne me suis jamais considéré comme un minimaliste. Quand j'ai écrit In C, je ne connaissais même pas le terme. C'est un mot excessivement sec. Ça m'évoque une personne vraiment pas intéressante qui se tient dans une petite boîte et qui passe toute sa vie là-dedans. Psychédélique ne sera jamais sec parce qu'il y est question de vision, d'inspiration et de magie. In C est devenue depuis 1964 une œuvre culte, si je puis dire. Et elle a donné lieu à toutes sortes de versions, chantées, jouées, avec des instruments acoustiques ou électriques. Des versions qui durent entre 20 minutes et 1 heure et demie, et qui donnent une idée de la diversité à laquelle peut donner lieu une simple page de musique. Schoenberg ne disait-il pas « il reste beaucoup de choses à écrire en Do majeur ». In C de Terry Riley dans sa première version enregistrée en 1968 par le Center of the Creative and Performing Arts. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Manon Houssin pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.